grand bonjour à vous toutes et tous qui me faites la grâce d'une écoute peut-être de hasard ou peut-être, qui sait, qui me faites le cadeau de votre fidélité à l'émission. On peut toujours rêver. Soyez les bienvenus sur Radio Grand Ciel. Et qu'avons-nous en plat du jour aujourd'hui? Nous avons L'Orne est curieux, une émission écrite et présentée par Robert Giraud, encore lui. À la prise de son, Simon Martin. Quelque chose dans le ciel me dit que nous allons vers des jours de lumière. Je parle du printemps. Puissent celles et ceux qui mènent le monde ou qui croient le mener, lever les yeux au ciel de temps à autre et savoir s'en inspirer un peu. Je dédie l'émission d'aujourd'hui à mon grand frère Bernard Giroud, qui m'a fait découvrir et aimer les instruments de musique et le trésor de la musique traditionnelle.
Thank you.
Il y a cela maintenant 10 ans bien tassés, si ce n'est plus, lorsque je mettais en action, lors des curieux, mon intention, si toutefois j'en avais une, était que l'on porte le regard sur des destinées musicales tendant à l'inhabituel, que l'on porte le regard sur des êtres plutôt secrets, réservés, pudiques, de ces caractères musicaux et humains, soucieux seulement de l'œuvre et pas nécessairement d'eux ou d'elles-mêmes. J'étais et je suis toujours fondamentalement rétif à l'esbrouffe, à ceux qui la ramènent pour un oui, pour un non, pour vivre et nous faire vivre dans le buzz permanent et le reflet d'eux-mêmes. Il faut garder à l'esprit ces mots de Georges Brassens, les mots de la chanson du pauvre Martin, qui retournait son chant et qui était tellement soucieux, comme il le disait, de ne pas déranger les gens. Si jamais fut écrite une chanson sur la grandeur de vivre, c'est bien celle-là. C'est le pauvre Martin de Georges Brassens. C'est cela que j'avais à l'esprit. Je n'ai pas pour habitude de projeter mes valeurs à direction du monde. Que le monde fasse comme il l'entend, qu'il fasse à son idée. Moi, je n'ai pas la clé de toute chose, pas l'ombre d'une vérité absolue à faire valoir. Je n'ai pas de leçon à donner. Le temps m'a appris simplement la valeur du geste et celle de l'intention légère, telle qu'on peut la retrouver par exemple sous le pinceau de Chagall ou de Miro ou de Dufy, sous la plume de Desnos, de Max Jacob, la guitare de Django, le piano Thelonious Monk. La voix des recluses en eux-mêmes, de ceux et celles qui seront toujours mieux à rester à l'arrière et que les miroirs n'attirent pas, la prédilection de l'œuvre comme unique souci, comme unique étoile. J'avais à l'esprit alors un certain nombre de noms, d'individus, dont certains ont eu déjà leur place dans l'émission. Comme c'est le cas malheureusement pour beaucoup de monde, on m'a souvent prêté des goûts et des préoccupations qui n'étaient pas les miens. Et cette émission m'aura permis, chemin faisant, de peut-être faire un peu de lumière. Et aujourd'hui, me semble-t-il, nous devrions encore plus nous rapprocher du cœur battant des musiques que j'aime, qui sont aussi nombreuses qu'elles sont diversifiées. Aujourd'hui, nous parlons d'accordéon, d'accordéon diatonique, de ce confident des âmes si discret, mais si puissant parfois à toucher notre cœur et le faire battre. Accordéon diatonique, donc, car au premier rang des noms venant à l'esprit en concevant cette émission figurait celui de Marc Perron. Thank you. Comme il me semble vous l'avoir expliqué, mon chemin vers l'accordéon fut long, chaotique et très irrégulier. J'ai procédé par éclairs successifs. C'est d'abord Jacques Brel qui m'a fait, comment dire, dresser l'oreille et comprendre comment et combien cet instrument-là savait installer le drame, la tension. Ce qui m'a donc attiré en premier, c'est sa gravité plutôt que sa brillance, sa voix intérieure plutôt que ses éclats, bref, son intériorité. Ensuite, ce fut Juliette Gréco. Donc, ma première approche fut liée corps et âme à la chanson. J'étais alors un musicien non pas traditionnel, je ne l'ai jamais été, mais aimant vraiment le traditionnel et plus que proche de ses couleurs musicales, des vibrations qu'émettaient tous ses instruments. Arriva donc un jour que je sois confronté à l'accordéon diatonique par l'entremise de Christian Holler, musicien lyonnais, plein de sensibilité et de musicalité, qui était aussi et demeure un collecteur de musique pour le violon et l'accordéon et le chant traditionnel. Il m'a appris les envoûtements du diatonique, non pas en m'en parlant, mais en jouant devant moi. Toutes celles et ceux qui l'ont entendu savent quel était son toucher, quelle était sa sensibilité et comment il pouvait vous saisir, vous emporter, vous retourner comme une crêpe d'un seul soupir d'accordéon. C'est lui qui m'a fait prendre la seconde impulsion avec l'accordéon, celle sur laquelle je suis toujours. Marc Perron évoluait également dans les cercles de musique traditionnelle et c'est là que je l'ai entendu pour la première fois. Et Perron est le premier qui fit la jonction du diatonique tel qu'on le jouait alors pour la musique traditionnelle avec le passé populaire de l'accordéon, celui des abords de Paris, des bords de Marne. Il le rattachait aussi à l'histoire de l'organetto, qui est le nom que donnent les Italiens à l'accordéon, puisque Perron est un Italien de Paris. Et rattachant sa pratique de l'instrument à sa propre histoire, et à celle de sa famille, c'est aussi donc une tournure très personnelle, presque intime, qu'il donnait à sa musique et à son instrument, instaurant une espèce de va-et-vient entre histoire et intimité, ce qui est le propre autant des grands artistes que des grands historiens. Quelqu'un comme Alain Le Goff ne faisait, je crois, pas autre chose que cela, éclairer l'histoire par la vie, par l'intime, par le détail. Marc Perron, actionnant son accordéon, mettait l'histoire en marche. Sa musique devint donc étrangement puissante, évocatrice, comme une machine à se mouvoir dans le temps, l'espace et les sentiments. Rien d'étonnant donc à ce que sa route croise un jour ou l'autre celle du cinéma. Les deux étaient idéalement faits pour se rencontrer. Si ce n'est qu'au cinéma, l'idéal est assez peu de choses et que les affaires y sont les affaires et que le grand cinéma, celui des Carnet, Renoir, Rivette ou Rosier, ça ne se croise pas tous les quatre matins. Alors, patience et longueur de temps. Et Marc Perron finira par croiser son Renoir en la personne du grand Bertrand Tavernier, dont l'oreille était au moins aussi affûtée que l'œil. On le savait jazzophile, bluesophile, mais c'est avec le plus grand discernement qu'il fera le choix de Marc Perron pour donner à son film « Un dimanche à la campagne » l'air des bords de Marne et le bon coup de soufflet. Et si nous en écoutions un peu de ce dimanche à la campagne ?
Thank you.
Marc Perron ouvrira sa focale plus en grand pour nous dire son amour du cinéma en musique. Il est, je crois, le musicien qui aura le plus et de la façon la plus sensible convié le 7e art dans le sien. Il y en aura d'autres, je pense par exemple au pianiste de jazz américain Round Blake, enregistrant un CD entier à la gloire de Claude Chabrol, s'il vous plaît. Le CD s'appelle tout simplement Chabrol, si vous pouvez le trouver sur les sites de vente en ligne. C'est un chef-d'œuvre. Mais pour l'essentiel, musique et cinéma se rejoignent aujourd'hui par et pour le seul amour d'une négoce, pour célébrer le dollar. Peu de choses, donc. Le travail de Marc Perron, tel qu'il l'a conçu et mené, a fait bien plus et mieux que cela pour le cinéma et pour la musique, conjointement. Le cinéma, chez Marc Perron, est une ligne force, une fondation. Renoir, Carnet, Duvivier lui sont sans doute tout autant que ses musiciens de chevet. Mais aussi Prévert, Trauner, les éclairagistes, dialoguistes, décorateurs, acteurs, actrices, chefs opérateurs. Pour lui, le cinéma est un équipage où il n'est rien qui vaille. C'est une idée, voire un idéal de cinéma qu'il projettera. Et de cet idéal, il fera une constante, l'un des murs porteurs de son œuvre musicale. Alors plongeons-nous dans cet aspect de sa musique, son lien avec le cinéma. Nous commençons avec un condensé des musiques qu'il composa pour la projection de Tir au flanc, film muet de Jean Renoir, l'un des premiers, je pense. Il s'agit ici d'une suite élaborée à partir de tous les thèmes écrits pour être joués en direct pendant la projection. Thank you. L'intérêt principal de Marc Perronne au cinéma est qu'il y apporte l'air du dehors. Chose qu'un Nino Rota, par exemple, aura réalisé à la perfection. Cela n'est pas de la musique classique, ou quoi que ce soit de géolocalisable musicalement, c'est une musique fruit des noces de l'image et de la musique. C'est un entrecroisement, un choc émotionnel, musique météoritique, ayant traversé plusieurs atmosphères et ayant gardé de tout cela la mémoire, les mémoires. Celle du temps, par exemple, où il était marionnettiste, ou encore quand il s'essayait à la comédie avec le théâtre de la Commune. Ce qui m'a toujours gêné, au fond, dans la musique de film, c'est précisément la musique de film. Ces jolis napperons de piano, trop de crème anglaise tuant la crème anglaise, ces alanguissements de violon, malheur trempé dans la soupe, le classique au rabais. Ce que j'ai aimé, moi, c'est le petit orgue grincheux, le ver chantant, ou les musiques de fêtes italiennes de Nino Rota, ou encore les belles musiques de Carlos D'Alessio, d'Oswald Andrea, de David Ruskin, ou encore la musique du John McCabe de Robert Altman, qui était le disque entier de Leonard Cohen qui a servi à élaborer le scénario. Ou encore Ran du Kurosawa, bien sûr, musique de Takemitsu, à laquelle j'ai consacré une émission entière de L'Or des Curieux. Alors pour cela, il vous faudra aller fouiller dans la section archives de la page. Et si vous avez du talent pour la spéléologie, vous la retrouverez peut-être. Ou encore la musique de Pat Garrett et Billy the Kid que Bob Dylan composa. Cette musique me rappelle quelque chose parce que je l'ai cité un jour parmi mes musiques préférées à un réalisateur qui préparait un film et ça m'a valu, figurez-vous, d'être éjecté comme un malpropre, renvoyé de ce film qui était en préparation. J'aime donc au cinéma qu'une musique vienne d'ailleurs, qu'elle déstabilise quelque peu les données du propos, comme quelqu'un qui arriverait là à l'improviste, sans aucune notion préconçue, et qui ferait valoir tout son imprévu, le non préparé. Je me souviens d'une scène dans le film « A Bronx Tale », réalisé par Robert De Niro. C'est un film admirable. Et dans ce film, il nous fait assister à un moment donné à un combat de boxe assez engagé, dirons-nous, pour ne pas dire un pugilat purement sauvage. Et De Niro, pour soutenir cette scène qui est assez violente et dure à soutenir et très rapide, a choisi une chanson d'amour en italien, très douce, très sentimentale. et le contraste, ou plutôt l'abîme qui sépare image et musique, devient alors un tout totalement juste et d'une rare efficacité. Ce sont là des moments exceptionnels où musique et cinéma parlent d'une seule et même voix. Et il en est très peu, vraiment très peu de ces moments-là au cinéma. Et encore bien moins qu'on ne le pense. J'aime toujours autant que je l'ai toujours aimé le septième art. Comme je peux dire que j'aime toujours l'humanité, même si parfois... Marc Perron, plus que marquer son attachement au cinéma classique ou ancien, mise sur une certaine intemporalité, voire atemporalité de la chose. Il y projette des valeurs qui pourraient tout aussi bien être les plus contemporaines. Le passé, même le plus récent, a son lot de grands et de grandes cinéastes. Jane Campion, Scorsese, Nicole Garcia, Clapiche, tellement d'autres. Ils sont tous vivants, ils sont tous des classiques. Et ce classique-là rue dans les brancards quand il veut. Ni formule, ni bandelette. Il y a donc permanence dans la maison cinéma. Alors lorsqu'on évoque Renoir ou Duvivier, comme Perron le fait, c'est d'abord que l'on évoque le cinéma. Alors une fois de plus, nous allons déployer le fauteuil rouge pour le bonheur de s'y martyriser l'arrière-train pendant une heure dans le noir en se gavant de barres chocolatées. Ohé, c'est pas la belle vie, ça ? Au programme ce soir, John Huston, René Clair et Jacques Becker. on pourrait considérer Marc Perron sous les angles les plus divers. Son rapport au cinéma, donc, sa musique pour l'image, puisqu'il a œuvré aussi pour les marionnettes, le documentaire, plein de choses, son œuvre de collecteur, le musicien folk qu'il fut, l'accordéoniste, avec la spécificité du diatonique, le compositeur, et tous ses angles d'attaque seraient les bons. Non pas qu'il soit multiple, il est au contraire d'une constance, d'une cohérence artistique rare, mais sa musique repose sur l'expression populaire, sur la connaissance des peuples et des langues et de leur destinée à travers l'histoire. Son approche de la musique embrasse donc le vivant dans sa plus large expression. D'où, par sa musique, on peut avoir l'impression d'être dans une maison aux volets grands ouverts, où l'on ne pratique jamais l'absolue perfection pour que celui ou celle qui viendra après puisse apporter sa quote-part de talent et de générosité. C'est une musique qui garde toujours la part de l'ami, pourrait-on dire, comme dans certaines maisons, on gardait la part du pauvre. Musique chaleureuse et hospitalière, donc. Sa musique est comme un cœur ouvert. Voici à présent quelques extraits choisis au hasard et presque les yeux fermés, dans une discographie où l'on ne saurait se trouver une seule note en trop ou quoi que ce soit de convenu. C'est une œuvre qui n'en finit jamais de vivre en nous, de changer, de grandir, de nous toucher toujours plus. D'autres comme moi auraient choisi d'autres choses, d'autres moments de musique, et tous nous aurions eu raison. Mais il faut se laisser faire, se laisser aller avec la musique, se laisser guider les yeux fermés, l'âme confiante, puisque c'est Marc Perron qui joue pour nous. Salut l'artiste et salut l'homme. À Marc Perron, nos cinq sens et l'autre, à tout jamais reconnaissants. Et je laisse vous ramener à bon port. Soyez sans crainte, vous êtes entre les meilleures mains. Au revoir et à très bientôt.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.